France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Pollution, mode de vie, alimentation, comment protéger son cerveau des maladies neurodégénératives? C'est notre thème ce matin avec la collaboration du Lyon Hebdo. Des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, d'Alzheimer, la maladie à corps de Lévy, des pathologies qui touchent de plus en plus de personnes et une question, quelle est la part de responsabilité de l'environnement dans leur développement? Par exemple, la pollution de l'air semble être l'une des causes principales de la maladie à corps de Lévy, la deuxième cause de démence dans le monde. Et dans la maladie d'Alzheimer, l'alcool, le tabac ou l'obésité sont clairement des facteurs de risque entre 40 et 60 ans. Autre question essentielle, comment protéger nos enfants de tous ces facteurs environnementaux délétères, facteurs délétères pour leur cerveau? N'hésitez pas à poser vos questions et à témoigner au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 sur l'appli Radio France ainsi que sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'enfant.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebbi.
Bonjour professeur Richard Lévy.
Bonjour.
Vous êtes professeur de neurologie à Sorbonne Université, vous dirigez l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, ainsi que l'unité de neurologie comportementale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et vous publiez chez Albin Michel, Cortex. Première question essentielle, tiens, à la compréhension de notre sujet ce matin, c'est quoi le cortex? Cette zone hypertrophiée, cette zone cérébrale hypertrophiée chez l'humain, le cortex au cœur de notre discernement et de notre liberté, écrivez-vous. Expliquez-nous ce fameux cortex.
Très bien, en quelques mots, sur un long sujet. Le cortex, d'abord, c'est l'écorce du cerveau. Mais à la différence d'une orange, l'essentiel est sur l'écorce et pas à l'intérieur. Car l'écorce du cerveau contient la plupart de nos neurones, c'est-à-dire nos cellules nerveuses, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliards de neurones. Et finalement, c'est la boîte centrale qui permet d'exécuter, de contrôler tous nos comportements. Ça va de la perception, je vois, j'entends, puis de la capacité à mettre toutes ces perceptions ensemble pour se faire une représentation, une image des objets du monde, puis ensuite de mémoriser ces objets ou alors de les utiliser pour agir. Et quand on parle d'action, on peut percevoir et agir, ou bien alors on peut percevoir, délibérer et agir. Et quand on délibère, on fait intervenir la partie la plus antérieure du cortex, qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est énorme chez l'homme, c'est un tiers du cerveau. Hein. Et de toutes les espèces de mammifères, c'est vraiment chez l'homme que c'est le plus développé. Et donc cette partie-là nous permet de figer le temps et, entre la perception et l'action, et dans ce temps figé, de faire intervenir nos projections du futur, nos objectifs, nos motivations, nos croyances, nos expériences passées, et donc de pouvoir délibérer, et donc de se créer une légère marge de liberté par rapport à l'ensemble des contraintes que nous subissons dans tous nos actes de la vie. Voilà.
Bonjour professeur Frédéric Blanc.
Bonjour.
Vous êtes gériatre et neurologue aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et vous êtes responsable du centre mémoire de ressources et de recherche des mêmes hôpitaux. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Vous êtes le directeur de la rédaction du Hebdo. À la une cette semaine, pollution, alimentation, mode de vie, comment protéger son cerveau? Professeur Richard Lévy, ce matin on va s'intéresser aux maladies neurodégénératives. C'est quoi exactement une maladie neurodégénérative?
Alors c'est pas très facile à définir en réalité. Disons que ce sont des maladies dans lesquelles progressivement les différentes parties du cerveau, notamment les neurones, vont disparaître de façon lente en général, sur plusieurs années, voire dizaines d'années. Mais notre vision finalement de ces maladies évolue avec le temps, et aujourd'hui on pourrait dire que ces maladies, ou toutes ces maladies neurodégénératives, sont dues à des modifications biologiques qui vont entraîner avec le temps des accumulations anormales de protéines, qui sont des protéines qui sont normalement exprimées dans le cerveau, mais qui là vont s'exprimer de façon un peu anormale, et puis autour de ces protéines, un certain nombre d'événements biologiques vont se produire, et en cascade, tous ces événements vont conduire de fil en aiguille à la disparition des neurones. Et quand les neurones commencent à souffrir et commencent à disparaître, alors les symptômes apparaissent.
Professeur Blanc, c'est la même chose, une maladie neuro-évolutive, c'est la même chose qu'une maladie neurodégénérative?
Alors, ben, écoutez, c'est un peu la même chose, si vous voulez. Simplement, le mot maladie neurodégénérative, c'est quand même un peu plus lourd hein, comme mot. Mm-hmm. Et c'est vrai que le mot neuroévolutif paraît plus adapté. Plus adapté parce que toutes ces maladies ne sont pas d'emblée neurodégénératives. Mm-hmm. Je pense en particulier à la maladie à corps de Lévy. Mm-hmm. Plutôt qu'une destruction des neurones d'emblée, nous avons plutôt un mauvais fonctionnement, des difficultés de fonctionnement des neurones. Et ce ne sera que beaucoup plus tard que les neurones disparaîtront.
Ce qui terrifie avec les maladies neurodégénératives, c'est la perte d'autonomie, de liberté, de perte de contact avec la réalité, professeur Lévy.
Oui, je pense que c'est vraiment une inquiétude majeure de la plupart des personnes qui sont affectées, ou des familles. Et c'est vrai que dans ces pathologies, peuvent apparaître avec le temps, pas d'emblée. Hein. Ce sont d'abord des maladies qui vont commencer par des symptômes mineurs, mais avec l'évolution, peut apparaître des problèmes d'autonomie, quelquefois même dans les gestes simples de la vie quotidienne.
Julien Bisson.
Oui, nos intervenants dans ce numéro du 1, Guillaume Coudray, parlent d'épidémie silencieuse pour évoquer ces maladies neuroévolutives. Est-ce que ça veut dire qu'on en diagnostique davantage aujourd'hui qu'on le faisait par le passé ?
Alors, d'abord, oui, bien sûr. Les critères diagnostiques évoluent. Ce sont des maladies qui prennent du temps aussi à se développer. Donc, le fait que la population vieillit fait que un plus grand nombre de patients apparaissent. Alors, ensuite, toute la question est de savoir si nos modes de vie jouent un rôle important ou pas dans l'apparition de ces maladies. C'est difficile à dire. Disons que je pense que le facteur principal, c'est quand même le fait que notre santé en général s'améliore, que l'on vive plus longtemps, et donc ça laisse plus de temps à des maladies qui, en réalité, avant d'apparaître réellement sur le plan des symptômes, sont des maladies silencieuses qui mettent des années, voire des décennies à se développer. Et donc, au temps où l'on mourait plus jeune, ces maladies n'avaient pas nécessairement le temps d'apparaître dans toute leur expression. Donc je crois principalement que c'est la qualité du diagnostic et l'augmentation de l'espérance de vie qui fait que nous voyons beaucoup de ces patients.
Professeur Frédéric Blanc.
Oui, le point important, si vous voulez, c'est aussi derrière, je dirais, les facteurs de risque de ces maladies. Mmh. Et au-delà de la maladie elle-même, c'est comment ça commence. Pour l'instant, on n'est pas très au clair sur cette affaire. L'élément qui semble important, c'est que tout pourrait commencer par les bulbes olfactives, c'est-à-dire ce contact
sur la maladie à corps de
l'extérieur et le cerveau. Mmh. Oui, alors sur la maladie à corps de Lévy et peut-être même d'autres maladies, mmh. hein, puisque que ce soit la maladie à corps de Lévy ou bien la maladie d'Alzheimer, on sait qu'il y a au niveau de ces bulbes olfactifs des lésions. Alors, sur la maladie à corps de Lévy, dans les bulbes olfactifs, c'est-à-dire le fond du nez, si vous voulez, cette partie du cerveau qui nous permet de sentir les odeurs. Et donc, le fait que les premières lésions, spécifiquement sur la maladie à corps de Lévy, commence au niveau de ces bulbes olfactifs, nous font dire qu'il y a probablement des éléments extérieurs qui favorisent l'apparition de cette maladie, et peut-être des éléments de pollution, peut-être des éléments infectieux.
Mmh. Bonjour Sarah Cadour, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Paris. Vous, votre mère,
oui,
est atteinte de la maladie à corps de Lévy. Je rappelle que c'est la deuxième cause de démence dans le monde, presque aussi fréquente, cette maladie à corps de Lévy, que la maladie de Parkinson. C'est votre mère qui a été diagnostiquée. Racontez-nous comment s'est effectué ce diagnostic.
Alors ça a été un petit peu long entre guillemets, parce que ça a été assez brutal son changement de comportement. C'était en été 2022, c'était en vacances, et un matin en fait je l'ai vue sortir de la maison à 6h en pyjama, très confuse. Elle disait qu'elle devait aller chercher du pain, elle disait n'importe quoi, marchait dans toute la maison, et elle ne s'est plus jamais, je dis, réveillée, moi, parce que je ne l'ai plus jamais retrouvée cet été-là dans son état normal. J'ai cru un AVC au début, donc après plusieurs examens, il y a eu une suspicion, en effet, de maladie neurodégénérative. Donc, au début, je ne savais pas trop si c'était Parkinson, parce qu'il y avait des symptômes parkinsoniens. Donc, ils lui ont fait une batterie d'examens. Elle a été en clinique du sommeil également. Et puis, elle a eu plein de symptômes, les jambes sans repos, les insomnies. Enfin, il y a eu pas mal de symptômes pour, au final, il y a quelques mois, Maintenant, après des allers-retours à l'hôpital, voilà, on nous a dit que c'était la maladie à corps de Lévy et son état, en effet, on l'a vu se dégrader en 2 ans. Il y a 2 ans, elle a pu se stabiliser grâce à un traitement, à de la dopamine. Ils lui ont donné aussi de la gabapentine pour soulager ses douleurs aux jambes, de la kiné, de l'orthophonisme. Mais son état s'est vraiment dégradé en 2 ans. Là où elle pouvait vivre seule, désormais, là, elle ne peut plus vivre seule. Elle est en unité protégée. Donc, ça a été vraiment brutal. Ça a été 2 années où tout s'est accéléré, alors qu'avant ces 2 années, y avait rien. Elle avait vraiment une vie normale, une vie active. Elle gardait mes enfants. Donc pour nous, ça a été vraiment un choc. Et à l'heure actuelle, son état de jour en jour se dégrade. Alors elle nous reconnaît, mais c'est fluctuant. C'est d'une heure à l'autre. Elle sait qui on est, mais elle peut être confuse. Elle peut d'un coup être très fatiguée, n'être plus là avec nous. Donc on s'est toujours demandé, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a été comme ça, alors qu'elle a été toujours active, que dans la famille, on n'a aucune maladie neurodégénérative. Est-ce que c'est pas dû à l'environnement? J'ai lu il y a pas longtemps qu'il y a eu des études par rapport à la pollution. Voilà, c'est toutes ces questions qu'on peut se poser par rapport à cette maladie pour pouvoir peut-être mieux l'appréhender.
Professeur Frédéric Blanc, avant de répondre aux questions de Sarah, rappelez-nous peut-être précisément ce qu'est la maladie à corps de Lévy, cette maladie qui se caractérise par la présence dans les neurones à corps de Lévy. C'est le nom du chercheur allemand qui les a découverts. Donc la présence d'agrégats anormaux de protéines, notamment une protéine qui perturbe la transmission neuronale.
C'est effectivement Friedrich Lévy qui a le premier décrit ces fameux corps de Lévy, qui sont donc l'accumulation d'une protéine, vous l'avez très bien dit, d'alpha-synucléine à l'intérieur des neurones. La particularité de toutes ces protéines dans ces maladies neurocognitives, c'est qu'elles ont une conformation anormale. Et cette conformation anormale fait que plutôt que de faire leur travail, eh bien, elles se mettent à s'accumuler et deviennent toxiques à l'intérieur des neurones. Donc pour spécifiquement la maladie à corps de Lévy, ça entraîne des dysfonctionnements des neurones, c'est-à-dire les neurones fonctionnent moins bien. Et par exemple, un des tout premiers symptômes de la maladie à corps de Lévy, c'est le fait qu'on a un peu plus de mal à sentir les odeurs de façon fluctuante. Au-delà de ça, quels sont les symptômes ? Eh bien, d'abord, dans la maladie à corps de Lévy, les patients ont des difficultés qu'on dit cognitives, c'est-à-dire ils vont avoir des difficultés à s'organiser, ils vont avoir des difficultés de concentration, ils vont être moins rapides. Hein, ce sont les symptômes cognitifs les plus fréquents. En plus de cela, et c'est toute la difficulté, c'est que chaque patient atteint de maladie à corps de Lévy est différent, parce qu'ils peuvent avoir différents symptômes. Et parmi ces symptômes, vous avez des hallucinations visuelles, le fait de voir des choses qui n'existent pas. Vous avez aussi un syndrome Parkinson, c'est-à-dire un ralentissement physique, une raideur, mais qui est plus discret souvent que dans la maladie de Parkinson. Et puis vous avez aussi des problèmes de sommeil, le patient qui commence à vivre leurs rêves, on parle de troubles du comportement en sommeil paradoxal. Et enfin, et ça c'est un élément clé, des fluctuations, et ça Sarah nous le décrivait bien, deux types de fluctuations, des fluctuations de vigilance, les patients se mettent à dormir, à être fatigués, à avoir du mal à émerger, parfois ils se mettent à faire une sieste de 2-3 heures en journée, c'est tout à fait normal, sauf si on n'a évidemment pas bien dormi la nuit d'avant. Et puis, des fluctuations cognitives, c'est-à-dire des moments où ils suivent les conversations parfaitement, et puis d'autres moments où ils ne parviennent plus à suivre les conversations, ou ils s'arrêtent même de parler. C'est tout à fait surprenant, et c'est pas facile à repérer, et pour les médecins, et pour les familles.
Sarah, vous reconnaissez ce tableau clinique ?
Je reconnais tous les symptômes. Elle a vraiment tous les symptômes avec justement les hallucinations qui ont été un nouveau symptôme l'été dernier. Et en effet, ces fameuses absences, on se sent un peu dérouté parce qu'on est en train de parler avec elle, en train de passer un bon moment. Et d'un coup, elle n'est plus là. Et d'un coup, elle est fatiguée. Elle a besoin de dormir, comme il le disait si bien, 2-3 heures. Voilà, c'est très déroutant parce qu'à des moments, ils sont là. Et c'est comme si on avait un petit espoir de se dire, mais en fait, peut-être que ça peut s'arranger puisqu'elle est avec nous et elle comprend ce qu'on dit. Et en fait, non, une heure après, son état change.
Vous restez avec nous, Sarah, parce que dans quelques instants, on va répondre à votre question, à votre interrogation sur les liens entre l'environnement, la pollution. Il y a une étude qui est sortie en 2025 de l'hôpital Johns Hopkins aux États-Unis. Et on va vous répondre dans quelques instants. Question de Julien Bisson.
Non, peut-être déjà vous dire que je trouve que le témoignage de Sarah est très emblématique de ce que nous, on a pu recueillir dans le 1, c'est-à-dire aussi un besoin de compréhension, une difficulté de compréhension d'un faisceau de symptômes très différents qui peuvent emprunter à d'autres maladies. Et on publie ce numéro aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est justement la journée mondiale de sensibilisation à la maladie à corps de Lévis. C'est notre journaliste Manon Poli qui en parle comme la plus répandue des maladies inconnues. Ça frappe 250 000 personnes en France, la plupart, beaucoup qui ne sont sans doute pas encore diagnostiquées. Et donc, c'est aussi important justement, et on le fait avec cette émission, de pouvoir parler de cette variété de symptômes aussi pour pouvoir sensibiliser à des personnes qui ont dans leur entourage des proches qui pourraient être frappés, et aussi de pouvoir savoir comment aborder, quel traitement on peut apporter à ces maladies.
Comment expliquer ce sous-diagnostic, professeur Blanc ?
Et qui est importante, on estime qu'il y a à peu près 2/3 des patients qui ne sont pas diagnostiqués, ce qui est énorme. Et le sous-diagnostic, il est lié à plusieurs choses, je pense. La première chose, c'est le fait que c'est une maladie pour laquelle on a eu des critères de diagnostic un peu tardifs. Hein, les premiers critères de diagnostic, c'était il y a à peine 30 ans. Mm-hmm. Et donc, finalement, le temps que, si vous voulez, ça passe dans les mœurs des médecins, ça met parfois un petit peu de temps. Hein, ça met parfois un petit peu de temps. Le deuxième élément, c'est que au moment où le médecin voit le patient, il va pas forcément très mal à ce moment-là. C'est-à-dire que le patient est capable de donner le change et le médecin se dit « mais bon, est-ce que ce ne serait pas finalement du vieillissement normal ?» Pour faire un diagnostic, contrairement à ce qu'on fait habituellement en médecine, où on attend que les patients nous livrent les symptômes, eh bien, il faut plutôt aller chercher les symptômes. Peu de patients vont vous dire « j'ai des hallucinations visuelles ». Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur d'être hospitalisés en psychiatrie.
C'est un tabou.
Peu de patients... C'est tabou. C'est tabou. Ça va même plus loin. C'est qu'il y a une forme de déni. À la fois des familles, des patients, des médecins. C'est un élément clé, ça. Le deuxième point, c'est les fluctuations. À certains moments, ils vont mal. À d'autres moments, ils vont bien. Et souvent, au moment où le médecin va voir le patient, il va plutôt bien. Parce que le patient fait un effort pour être bien au moment où il voit le médecin, où il voit un professionnel de santé. Et donc, ne pas aller chercher les symptômes pour le médecin, c'est se dire, non, il va bien, on va pouvoir le rassurer. Sauf que ça rassure pas les patients, parce que les patients sont convaincus qu'ils ont un problème.
Sarah, restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur la corrélation entre la pollution atmosphérique et le risque de maladie à corps de Lévis. On se retrouve juste après avoir écouté Blur, There's No Other Day, une chanson sortie en 1990, 10h24 sur France Inter.
You're taking the fall.
There's No Other Way, c'est Blur qui interprétait cette chanson.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebéi.
Et ce matin, dans Grand Main Vous Fasse, avec le 1 Hebdo, comment protéger notre cerveau des facteurs environnementaux comme les modes de vie, l'alimentation ou la pollution. La pollution de l'air, c'est l'un des facteurs de risque de la maladie à corps de Lévy, une maladie neuroévolutive presque aussi fréquente que la maladie de Parkinson. C'est la deuxième cause de démence dans le monde. Alors en 2025, dans la revue Science, des chercheurs de l'université Johns Hopkins ont mis en évidence, pour la première fois, une augmentation du risque de maladie à corps de Lévy. En observant l'augmentation de l'exposition aux particules fines, des feux de cheminée ou des incendies de forêt. Professeur Frédéric Blanc, quelles sont les conclusions de cette étude qui a été réalisée en étudiant les données de santé de plus de 56 millions de patients américains âgés de plus de 65 ans quelles sont les conclusions de cette étude ?
Alors, oui, effectivement, une étude impressionnante à plusieurs titres. D'abord, une étude sur les patients américains où on voit finalement que au contact de ces black carbone, ce qu'on appelle les PM2,5, donc vous le disiez bien, ces particules très fines, il y a une augmentation d'hospitalisation pour une maladie à corps de Lévy aux États-Unis. Il y a donc une augmentation du risque de maladie à corps de Lévy, ou en tout cas d'une hospitalisation pour une maladie à corps de Lévy aux États-Unis dans un contexte d'exposition à ces PM2,5, donc à ces particules extra fines. Mais en même temps, ils sont allés plus loin, ils ont regardé aussi sur des modèles animaux, et en particulier, ils ont exposé des souris qu'on appelle sauvages, c'est-à-dire des souris comme monsieur et madame tout le monde, à ces PM2,5, et ils se sont rendus compte qu'il y avait une atrophie du cerveau qui s'installait. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis un deuxième élément, c'est qu'ils se sont rendus compte que lorsqu'on mettait en contact l'alpha-synucléine avec... ces particules fines, le PM2,5, eh bien, on augmentait le risque de développer une maladie à corps de Lévy pour la souris, et plutôt pas une maladie de Parkinson, comme si vous voulez, cette pollution atmosphérique agissait plus sur les aspects de cognition, c'est-à-dire mémoire, attention, organisation, etc.
Rappelez-nous
c'est
juste
des éléments assez intéressants.
Professeur Blanc, ce qui se passe quand ces particules fines pénètrent dans le bulbe olfactif, qu'est-ce qui se passe ailleurs et pourquoi ces particules fines vont affecter le cerveau? C'est très important, ce bulbe olfactif.
Oui, alors, on ne sait pas trop. Peut-être quand même, ce que je voudrais rajouter, c'est... D'abord, dès 2018, une collègue de Mexico, hein, Mexico, vous savez, c'est une ville très, très, très polluée. Hein, c'est même la ville par excellence polluée, malheureusement. Et cette collègue qui s'appelle Calderón Garcudenas, qui en 2018 a montré que chez des gens d'à peine 40 ans, dans cette population-là de Mexico, il y avait déjà des gens, beaucoup, qui avaient la présence de corps de Lévy dans les bulbes olfactifs. Et elle avait montré que dans ces bulbes olfactifs, il y avait une proximité entre la présence des black carbone, donc cette même particule fine, et la présence de corps de Lévy. Alors après, qu'est-ce qui se passe ? Ben écoutez, moi je ne sais pas trop, puis je suis médecin, mais on peut imaginer quelque chose en tout cas. Ce qu'on peut imaginer, c'est que cette fameuse alpha-synucléine des corps de Lévy, elle ressemble beaucoup à ce qu'on appelle des peptides antimicrobiens. Donc on peut imaginer que cette synucléine qui frappe plus tard les corps de Lévy se mette à essayer de se débarrasser de ces PM2,5, donc de ces black carbone. Et elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, et peut-être pire, elle change de conformation. Et en changeant de conformation, eh bien, à ce moment-là, il y a une accumulation de synucléines entre elles, et ça forme ces fameux corps de Lévy.
Alors,
ça n'est qu'une hypothèse que je vous raconte.
Quels sont les autres facteurs de risque les plus connus de la maladie à corps de Lévy ? Est-ce que le diabète, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, est-ce que ça peut être des facteurs de risque ?
Ah, vous avez entièrement raison, hein. Comme pour la maladie d'Alzheimer et comme d'autres maladies neurocognitives ou neuroévolutives, les facteurs de risque vasculaires sont clairement des facteurs de risque de maladies à corps de Lévy. Hypertension, cholestérol, diabète. Mais d'autres facteurs de risque interviennent aussi, notamment le fait d'avoir préalablement des symptômes ou une maladie psychiatrique, notamment l'anxiété, la dépression, le trouble de l'attention avec hyperactivité ou TDAH. Alors, à vrai dire, on ne sait pas trop si ce sont des facteurs de risque ou si ce sont en réalité des symptômes, si vous voulez, précoces de la maladie, ou alors pour le TDAH, donc ces troubles de l'attention, quelque chose qui ressemblerait à un corps de Lévis, mais qui n'en serait pas. Et puis enfin, il y a aussi les accidents vasculaires cérébraux. Le fait de faire un accident vasculaire cérébral préalablement est un facteur de risque de maladie à corps de Lévis. Et parfois, l'accident vasculaire cérébral, l'AVC, va lui-même être responsable de troubles cognitifs. Et donc le médecin va là aussi à nouveau être embêté, parce que est-ce que ces difficultés cognitives sont liées à l'AVC ou sont liées à la maladie à corps de Lévis?
Question de Julien Bisson, directeur des rédactions du 1 Hebdo.
Non, la question que j'aurais, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des âges dans lesquels nos cerveaux sont plus vulnérables que d'autres à l'apparition de ces maladies neuroévolutives? Maladie à corps de Lévis, mais aussi autre maladie. Est-ce que ce sont simplement des maladies qui peuvent frapper au grand âge, ou est-ce que dès les plus jeunes années, il faut être très vigilant?
Professeur Richard Lévy.
Alors, je vais dire un mot de ces facteurs pour la maladie d'Alzheimer. Oui, il y a des facteurs de risque qui peuvent être détectés assez tôt dans la vie. On peut faire quasiment une cartographie finalement des facteurs de risque entre le début de la vie et le grand âge. Au tout début de la vie, un des facteurs de risque environnemental qui a été mis en évidence, c'est un déficit d'éducation, c'est-à-dire de scolarité. Donc un faible niveau de scolarité peut avoir un impact sur le développement de la maladie d'Alzheimer bien plus tard dans la vie. Puis il y a des facteurs qui interviennent au milieu de la vie, entre 40 et 60 ans. Des facteurs comme les traumatismes crâniens, l'alcool, le diabète, les maladies cardiovasculaires,
le tabac,
par exemple.
Le tabac aussi.
Le tabac, absolument, l'obésité. Et puis, il y a des facteurs qui interviennent un peu plus tard. Par exemple, l'isolement social, la dépression, encore une fois, le diabète peut intervenir aussi plus tardivement. Les troubles aussi auditifs, enfin que les troubles de la perception, notamment les troubles auditifs ou les troubles visuels, interviennent entre 40 ans et puis le grand âge. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de risques environnementaux, faut pas appeler environnementaux, qui interviennent, environnementaux par opposition au patrimoine génétique qui peut être bien sûr aussi un facteur de risque, et les deux se mélangent, et c'est probablement un cocktail entre un patrimoine génétique particulier et des facteurs de risque que l'on va rencontrer au cours de notre vie, qui vont faire apparaître cette maladie, bien que ce cocktail, la recette de ce cocktail ne soit pas bien connue actuellement.
Professeur Blanc, revenons à la maladie à corps de Lévis, dont c'est la journée mondiale aujourd'hui. Comment la prévenir le plus tôt possible?
Alors, peut-être un mot plus global, là je prends ma casquette de gériatre, pour dire que, pour répondre à M. Bisson, je pense que, effectivement, au plus on avance en âge, au plus, si vous voulez, les cellules un peu âgées ont plus de mal à réparer les protéines qui se sont un peu mal conformées, c'est-à-dire qui ont une conformation dans l'espace qui n'est pas normale. Et c'est possiblement, enfin, le facteur de risque principal de ces maladies neurocognitives, ça reste l'âge, comme le disait finalement Richard Lévy. Le deuxième point sur lequel j'aurais aimé insister, c'est le fait qu'on a quand même des facteurs de risque contre lesquels on peut lutter. Alors évidemment, on a parlé des facteurs de risque vasculaire, mais il y a aussi l'inactivité physique. L'inactivité physique, si on fait de l'activité physique régulièrement, c'est-à-dire marcher 20 minutes, 30 minutes par jour, ça permet de prévenir ce type de maladie. Si on s'occupe de ces troubles auditifs, et que pareil, on a la chance en France d'avoir l'appareillage auditif qui est remboursé, et c'est important, eh bien, on diminue quand même de 7% le risque de ces maladies neurocognitives. Et puis, des choses qui sont peut-être tout aussi importantes, c'est l'isolement social. On sait qu'on vit dans des sociétés où les personnes âgées peuvent avoir un plus grand isolement social. Eh bien, en réalité, si on diminue cet isolement social, on diminue de 5% ces maladies neurocognitives. Et nos collègues du Lancet, dans une étude qu'ils font chaque année, ont montré que finalement, si on arrivait à jouer sur tous ces éléments, comment dire, subtil, mais tout à fait banal, dont parlait Richard Lévy et, pour lequel j'ai ajouté un complément, eh bien, on pourrait diminuer le risque de ces maladies neurocognitives de 45%, ce qui est quand même énorme.
Julien Bisson.
Oui, non, ce que je trouve très, très, très important dans ce que vient de rappeler le docteur Blanc, c'est qu'on a souvent perçu ces maladies neuroévolutives comme une forme de fatalité qui nous arrivait avec le grand âge. Et ce qu'on comprend là dans ces discussions, c'est qu'on peut lutter contre cette fatalité. Je veux dire par là qu'il y a des facteurs environnementaux contre lesquels on peut lutter, soit de façon individuelle, soit de façon beaucoup plus collective. On est aujourd'hui en train de discuter à l'Assemblée nationale de la suppression des zones de faible émission, par exemple, qui
sont les ZFE.
Les ZFE qui sont censés protéger notamment les centres urbains de la pollution aux particules fines générées par, le trafic automobile. C'est un exemple de lutte collective contre les émissions de particules fines et donc contre les risques que nous faisons porter sur nos aînés, mais aussi nous-mêmes et nos enfants, de survenue de ce genre de maladie.
Merci beaucoup Sarah, j'espère qu'on a répondu à vos questions sur la maladie à corps de Lévy. Vous aviez peut-être une dernière question ?
Non, mais merci à tous, j'ai bien entendu. Je pense que dans son cas, c'est plus environnemental, en effet, parce que ça a été une citadine toute sa vie, parce qu'elle a été très active, mais j'ai appris plein de choses. Merci pour cette émission.
Merci beaucoup, Sarah. Et nous accueillons Denise. Bonjour, Denise.
Bonjour.
Vous appelez de Toulouse.
Bonjour. J'appelle de Toulouse, oui, effectivement.
Bienvenue. Alors, vous êtes atteinte de la maladie de Parkinson depuis 2 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Le diagnostic est posé comme ça pour le moment, c'est la maladie de Parkinson. Et donc j'étais particulièrement intéressée par les développements des éléments du cocktail dont parlait votre intervenant, parce que effectivement on dit souvent et en premier abord que ce sont des facteurs individuels. Je n'ai pas fumé sauf très peu dans ma jeunesse, je ne bois pas. Par contre, j'ai habité une dizaine d'années près de AZF. J'ai travaillé aussi longtemps.
AZF, c'est une usine chimique à Toulouse.
Voilà, je pense qu'elle est désormais bien connue, malheureusement.
Oui, avec l'accident d'AZF en 2001, en septembre 2001.
C'est ça. Et puis j'ai travaillé aussi dans une autre petite ville, très près d'une station de brûlage des ordures ménagères, qui, je le sais, n'était pas aux normes, et dont a été prolongée pendant plusieurs années, parce qu'on les a prolongées leur durée de vie réglementairement, voilà. Et donc, moi, je suis très réactive à ces questions d'environnement.
Je rappelle que la maladie de Parkinson détruit progressivement les neurones à dopamine dans une zone du cerveau appelée la substance noire. Et le déficit en dopamine provoque un mauvais contrôle des mouvements automatiques. Et les causes sont inconnues dans 85 à 90% des cas. Professeur Lévy, professeur Blanc, sur les liens entre l'environnement et en l'espèce le fait que Denise est habitée près d'une usine comme AZF. Richard Lévy.
Alors, sur les liens entre Parkinson et environnement, le lien finalement qui est le plus solide, c'est celui qui relie la maladie de Parkinson à un certain nombre d'herbicides, de pesticides qui ont été utilisés notamment en France, mais qui ne sont plus utilisés aujourd'hui, comme la roténone ou le paraquat. Ça, c'est un lien qui d'ailleurs conduit certains agriculteurs à obtenir
des indemnisations.
Absolument, de maladies professionnelles. Donc, ce lien-là est reconnu. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste des facteurs de risque, spécifiquement de la maladie de Parkinson, donc peut-être que Dr Blanc a une explication plus avancée.
Professeur Frédéric Blanc ?
Oui, alors pas plus un spécialiste, puisque moi, je suis, c'est plus la maladie à corps de Lévy, mais globalement, il y a deux éléments clés dans la maladie de Parkinson. Il y a certainement des éléments génétiques, hein, comme on l'a aussi dans la maladie d'Alzheimer, et qui sont des facteurs de risque, parfois, mais parfois même, malheureusement, on a des maladies de Parkinson génétiques, hein, c'est-à-dire que au niveau des familles, on retrouve des cas de maladie de Parkinson à chaque génération. Le deuxième point, c'est effectivement tous les éléments toxiques. On parlait de la pollution de l'air, on en a déjà parlé pour la maladie à corps de Lévy, mais il y a aussi des éléments pour la maladie à corps de Lévy. Et puis Richard Lévy parlait très bien des aspects de pesticides qui sont souvent des neurotoxiques et donc qui forcément peuvent favoriser ce type de maladie.
Tiens, quels sont les traitements que vous prenez, Denise, pour lutter contre cette maladie de Parkinson? Quels sont les traitements?
Uniquement.
Denise, je ne vous ai pas entendu, pardon.
La levodopa-carbidopa.
D'accord. Donc vous êtes suivi depuis donc deux ans. Vous voyez une amélioration quand même. Est-ce que justement la prise de médicaments permet d'améliorer le diagnostic?
Alors, permet d'améliorer la prise en charge des patients pour la maladie de Parkinson très nettement depuis la fin des années 60 et l'introduction d'un précurseur de la dopamine qu'on appelle la levodopa qui finalement remplace un déficit qui apparaît dans le cerveau, c'est-à-dire que, comme vous l'avez très bien dit au début, on fabrique de la dopamine. Cette dopamine, c'est un neurotransmetteur qui va favoriser notamment le mouvement, la mobilité. Et l'usine qui en fabrique, cette substance noire, n'en fabrique plus autant. Et donc, on donne un précurseur qui, dans le cerveau, va se transformer en dopamine. Et donc, en quelque sorte, on pallie au déficit en dopamine. Et donc, cette révolution qui est apparue à la fin des années 60 a permis d'améliorer très, très fortement le traitement et donc la prise en charge des patients atteints de maladies Parkinson. Puis depuis, il y a eu des médicaments qui s'approchent de ce précurseur, ce qu'on appelle les agonistes dopaminergiques, et puis aussi maintenant des techniques, notamment microchirurgicales, pour essayer d'améliorer le sort de ces patients.
Julien Bisson.
Oui, on voit ces maladies neurodégénératives comme des maladies incurables, généralement, quand on en parle au sein de la population générale. Est-ce que ça signifie que c'est toujours le cas, ou est-ce qu'il y a des traitements innovants qui permettent de non seulement d'accompagner les malades, mais aussi peut-être de lutter efficacement contre ces maladies?
Alors, si on prend la maladie d'Alzheimer, je crois qu'il y a une révolution en cours, alors qu'il n'a pas encore sur le terrain en France d'application, mais qui va probablement arriver. Mais pour pouvoir la décrire, il faut quand même revenir à la base de la maladie, c'est-à-dire aux anomalies biologiques que l'on observe dans cette maladie. C'est des anomalies complexes, c'est probablement multifactoriel, la cascade d'événements est extrêmement difficile à décrire, tant elle implique de molécules différentes, mais néanmoins, dans l'étincelle qui va enflammer la mèche, il y a une protéine qui s'accumule de façon anormale, elle est elle-même anormalement formée, qui est la protéine bêta-amyloïde. Et autour de cette protéine va se former une inflammation et puis toute une réaction en cascade qui progressivement, sans décrire toutes les étapes, va conduire à la mort des neurones. Et donc, cette protéine qui apparaît assez précocement dans le développement biologique de la maladie, si on peut empêcher son agrégation en amas dans le cerveau, eh bien, peut-être pourra-t-on, en éliminant cette protéine, empêcher toute la cascade d'événements qui lui succèdent. Et c'est le but de ce qu'on appelle l'immunothérapie passive, c'est-à-dire injecter des anticorps dont la cible préférentielle est cette protéine amyloïde anormalement conformés et qui s'accumulent dans le cerveau. Donc ces anticorps monoclonaux anti-amyloïdes sont développés, ont été développés depuis de longues années, hein. C'est un développement qui dure depuis plus de 10 ans, hein, et qui a d'ailleurs commencé par ce qu'on appelle une vaccination active, mais qui avait des conséquences trop fortes.
Ils ne sont pas encore autorisés en France?
Alors, ces médicaments ne sont pas encore autorisés en France, ils le sont à l'échelle européenne. Ces anticorps monoclonaux, au moins deux pour l'instant, sont autorisés, le lecanemab et le donanemab, à l'échelle européenne. Mais ensuite, chaque pays est souverain pour l'autorisation et la mise en place des traitements. Et à l'échelle de la France, pour l'instant, ces médicaments n'ont pas été autorisés.
Merci beaucoup, Denise, de nous avoir appelé au 01 45 24 7000 et nous accueillons Béatrice. Bonjour Béatrice, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour. D'où appelez-vous, Béatrice ?
Du Loir-et-Cher.
Quelle est votre question ?
Eh bien, quand vous parlez des maladies dégénératives, je pensais qu'en mangeant bio et en mangeant les légumes de notre jardin, nous nous protégions. Mm-hmm. Mais non, puisque dans le Loir-et-Cher, comme vous en avez parlé sur votre antenne, il y a eu une étude à l'initiative des agriculteurs bio. Et les légumes qui ont analysé les fruits et les légumes de nos jardins. Et j'ai une amie qui habite à quelques kilomètres. Et dans ses pommes, l'étude a révélé qu'il y avait une molécule toxique qui était présente 35 fois au-dessus de la limite autorisée, c'était du prosulfocarbe, mm-hmm. dans ses pommes. Et maintenant, on ne sait même plus si on peut manger les fruits et légumes de nos jardins. Mm. Et avec les procédures omnibus qui se préparent en Europe, on est très inquiet et on se demande comment on va pouvoir se protéger.
Sur les liens entre les pesticides et les maladies neurodégénératives, vous en avez dit un mot, professeur Frédéric Blanc.
Oui, bah écoutez, c'est très clairement c'est le cas avec la maladie de Parkinson. C'est probablement le cas avec d'autres maladies, y compris la maladie d'Alzheimer et la maladie à corps de vie. Mais là, les études sont moins claires. Je partage l'inquiétude de notre auditrice. Je pense qu'il faut qu'on arrive à pouvoir assainir finalement nos sols. Ça doit être une volonté commune. Il n'y a pas d'autre solution. Je fais un pas de côté juste pour dire que l'espoir quand même, et il est net, hein, et Richard Lévy en parlait bien, c'est le fait qu'une révolution est arrivée, c'est-à-dire qu'on va avoir désormais des biomédicaments pour lutter contre ces maladies neuro-évolutives, hein, là en l'occurrence des anticorps qui éliminent les plaques amyloïdes de la maladie d'Alzheimer. Je crois qu'il y a une grande peur des autorités de santé sur le coût de ces médicaments, ce que je partage aussi, parce que notre sécurité sociale n'est peut-être pas en capacité, si on avait énormément de patients à traiter, en capacité de payer tout cela. Mais il y a quand même la nécessité que la population puisse avoir accès aux traitements les plus, comment dire, optimaux, compte tenu de la gravité de ces maladies.
Merci beaucoup, Béatrice, de nous avoir appelé du Loir-et-Cher. Dans un instant, on va s'intéresser au lien entre démence et nanoplastique. On se retrouve juste après avoir écouté Marguerite, qui interprète Snipers, 10h48 sur France Inter.
Il y a des gens partout, j'ai le cœur qui devient fou, ça me fait tourner la tête. J'ai pas les applis, j'ai des petits papiers, mon numéro dessus. Tu t'appelles comment? Ils font quoi tes parents? Tu fais quoi ce soir? Viens, on fait pas semblant, perds pas notre temps, il va fermer le bar. Scan, check, inspect, flamme, reste, flag, red. Scan, check, inspect, flamme, reste, flag, red. Scan, check, inspect, flamme, reste, flag, red. Scan, check, match, yes. Je crois qu'on est plus beau au tout début. Quand on s'est pas encore embrassé, quand on s'est pas encore déçu. J'ai plus ce qui me plaît, mais je supporte pas de danser solo. J'ai des coups de cœur à tous les coins de rue, sur les trottoirs, les gens sont trop beaux. Trop beau, trop belle, trop beau, trop belle, trop beau, trop belle, trop beau, trop belle. Sniper, je tombe amoureuse à chaque jolie gueule. Mon corps s'emballe.
Marguerite interprétée Snipers.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, dans Grand Bien Vous Fasse, avec le 1 Hebdo, comment protéger notre cerveau des facteurs environnementaux délétères pour lui. Et nous accueillons Michel, qui appelle de Rennes. Bonjour Michel. Bienvenue.
Oui, bonjour Ali, j'appelle de Rennes. Moi, je suis concerné par une autre maladie qui s'appelle la maladie du Huntington dans ma famille. Et donc, je voudrais aussi confirmer que la manière de vivre sa maladie, qu'on continue à bouger, qu'on continue à se déplacer, même si on le fait de moins en moins loin, mais c'est très important. Moi, ma question est concernée un peu vos invités. Quel type d'alimentation ils préconisent pour essayer de ralentir l'évolution de ces maladies neuro-évolutives.
Très intéressante question de Michel. Professeur Richard Lévy, je rappelle que vous êtes neurologue.
Oui, absolument. La question est très importante, non seulement chez les patients eux-mêmes, mais aussi dans la prévention de ces maladies. L'alimentation joue un rôle très important. Alors, il ne faut pas voir l'alimentation comme simplement quelque chose qui peut nous empoisonner. Elle peut aussi avoir de très bons côtés. On sait, par exemple, que ce qu'on appelle le régime méditerranéen, très riche en légumes frais et en fruits.
En légumineuses, hein. Très peu de viande rouge, avec des céréales complètes si possible, de l'huile d'olive, etc. C'est l'alimentation méditerranéenne idéale, mais pas seulement pour la maladie de Parkinson, également pour les maladies cardiovasculaires, voilà. Etc.
Mais comme ces pathologies sont souvent intriquées, vous voyez, les maladies cardiovasculaires sont des facteurs de risque de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, on agit en fait sur les deux. Donc ces régimes-là ont un impact important, mais finalement, prévenir ces maladies, c'est jouer sur plusieurs tableaux à la fois, c'est de mettre plusieurs briques dans le mur de prévention. Il y a à la fois l'alimentation, mais aussi l'activité physique, ça a été très bien dit chez les patients, mais aussi en prévention, là aussi ça a été montré, et aussi la stimulation cognitive. Et le mieux, c'est de mélanger les trois, d'avoir une approche multimodale. Il y a des grandes études épidémiologiques comme l'étude Finger, qui montrent que quand on mélange la stimulation intellectuelle, l'activité physique et les régimes alimentaires, eh bien, on prévient l'apparition de façon significative de ces pathologies, notamment la maladie d'Alzheimer.
Une précision sur la stimulation intellectuelle ?
La stimulation intellectuelle, ça consiste à ne pas rester dans des routines comportementales qui sont toujours les mêmes, de faire des choses très différentes.
La curiosité ?
La curiosité, continuer à s'éduquer au fil du temps, c'est vraiment un élément central. C'est-à-dire que des régions comme par exemple les hippocampes, qui sont une zone très importante pour la mémoire, ce sont des régions qui sont activées principalement quand on sort de l'ordinaire. Pas nécessairement quand on fait des choses très complexes, mais quand ce que l'on fait sort un peu de l'ordinaire. Donc il faut sortir un peu des chemins battus et donc continuer à apprendre des choses et à ne pas rester passif devant son écran, par exemple. Voilà.
Des précisions, professeur Frédéric Blanc, je rappelle que vous êtes gériatre et neurologue.
Oui, je crois que l'objectif pour nous toutes et tous, c'est une longévité cérébrale en bonne santé. Longévité d'abord globale, mais une longévité aussi de notre cerveau. Et c'est vrai que diminuer les gras artificiellement, l'huile hydrogénée, les soupes en conserve, la pâte à tartiner qu'on connaît bien, diminuer la margarine, les lards, l'huile de palme, et favoriser les oméga 3, les oméga 6, huile de noix, huile de lin, huile de tournesol, ça c'est bénéfique et c'est important de le dire. Ce qui est important aussi, c'est diminuer le sucre quand on le peut, hein, ça permet d'augmenter la longévité cérébrale en bonne santé. Consommer aussi des noix, des noisettes, des amandes et pas des cacahuètes. Là aussi,
cacahuètes, ça les grillait, on évite.
Eh ben oui. Et puis les flavonoïdes, ils sont excellents pour la longévité parce que c'est des antioxydants. Puis ils modulent le microbiote intestinal. Et là, on en trouve dans les fruits rouges, dans les légumes verts, etc. Donc je crois que c'est vraiment important. Et peut-être Richard Lévy en parlait bien aussi, mais insister sur cette étude Finger de nos collègues qui sont en Finlande, donc Kivi Pelto, un professeur Kivi Pelto. Son idée, c'était vraiment d'agir simultanément sur l'alimentation, mais aussi sur la musculation et l'équilibre, en faisant des exercices réguliers de cardio, d'équilibre, l'entraînement cognitif, et puis surveiller sa tension, surveiller son cholestérol, surveiller le sucre, surveiller l'obésité, et puis faire des activités sociales. Et là, ce qu'elle a montré, c'est que clairement, il y avait un bénéfice pour les gens qui avaient entre 60 et 80 ans, en gros. Et le bénéfice, il était intéressant, puisqu'on améliorait la cognition globale d'un quart, on augmentait son organisation de plus de 80%, et puis on améliorait aussi sa vitesse cognitive de plus de 150%. Donc, très intéressant quand même. Et je crois que c'est important pour les plus de 60 ans de penser à ça.
Julien Bisson, pour terminer, sur les liens entre la démence et les nanomachines, nanoplastique.
Oui, c'est une étude assez récente qui a été publiée dans Nature Médecine en février 2025, qui a été réalisée sur des cerveaux post-mortem. Elle dévoile la présence de micro et de nanoplastiques dans des quantités beaucoup plus importantes, au moins 5 fois plus, chez des personnes, dans le cerveau de personnes atteintes de démence. Alors, il n'y a pas encore de lien de causalité établi, c'est plutôt de la corrélation à ce stade. Mais c'est frappant de voir que, en effet, chez des personnes atteintes de démence, on a beaucoup plus de ces nanoplastiques et microplastiques. Et donc, ça nous interroge sur la façon dont on peut se protéger de ces nanoplastiques, qu'ils, eux aussi, peuvent rentrer dans le cerveau par le bulbe olfactif. Ces nanoplastiques, ils sont présents là aussi dans notre alimentation, par le biais des aliments, des emballages notamment, plastiques qui vont être autour de ces aliments, et puis dans notre environnement, par la voie respiratoire, ça va être les textiles, les meubles, les autres objets de nos maisons. Donc là aussi, il y a encore des études qui vont devoir être faites pour pousser et en savoir davantage, mais là encore, des facteurs environnementaux sont sans doute à l'œuvre.
Un mot de conclusion, professeur Blanc, il nous reste moins d'une minute.
Oui, pour vous dire spécifiquement sur les nanoplastiques, on avait montré aussi qu'il y avait des phtalates dans le liquide céphalo-rachidien des patients, donc c'est probablement un élément qu'il faut approfondir. Moi, un mot peut-être plus global, pour les patients atteints de maladies à corps de Lévis, n'oubliez pas d'avoir des liens avec l'association A2MCL, qui est l'association des aidants et patients atteints de maladies à corps de Lévis. Ils donnent vraiment un très beau coup de main pour les patients. Et de l'autre côté, pour les patients atteints de maladies Alzheimer, vous avez France Alzheimer qui fait aussi un travail formidable.
Redonnez le nom de l'association.
A2MCL pour maladies à corps de Lévis, maladies à corps de Lévis, A2MCL.org. Ils ont des psychologues, ils ont des équipes formidables qui accompagnent les patients et qui leur proposent finalement de mieux connaître la maladie et de trouver les solutions.
Professeur Richard Lévy, un mot de conclusion ?
Oui, très bref. Je pense qu'il y a quand même de l'espoir à avoir pour les patients en termes de diagnostic. Il y a des nouveaux marqueurs qui vont faciliter véritablement le diagnostic, qui vont le rendre moins douloureux, hein, notamment. Il y a bien sûr des améliorations thérapeutiques à venir, on en a parlé, et puis bien sûr la prévention qui commence à voir le jour avec l'apparition de centres de prévention. Le modèle auquel on se réfère se trouve en Suisse, dans l'équipe de Frisoni, mais on va pouvoir peut-être développer ces modèles aussi en France et proposer des programmes de prévention à nos patients.
Merci beaucoup, professeur Frédéric Blanc. Merci, professeur Richard Lévy. Je conseille la lecture, la saine lecture de Cortex. C'est publié chez Albin Michel. Julien Bisson, merci. Le numéro du 1 Hebdo, pollution, alimentation, mode de vie, comment protéger notre cerveau. Il est indispensable et il est disponible en kiosque. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Grand Bien Vous Fasse sur l'appli Radio France. Demain, on s'intéresse à la jungle de la seconde main avec 60 millions de consommateurs.